Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur.
Ô noble Rouen, antique, puissante et merveilleuse cité, les Normands ont voulu que tu sois leur souveraine.
En 1951, l'exclamation du poète du Moyen-Âge garde toute son actualité. Rouen demeure la grande métropole normande et les ravages de la dernière guerre mondiale n'ont pas compromis son avenir.
Eh bien, sachez que cette ville de Rouen possède aussi une place particulière dans l'histoire du cyclisme. Elle fut en 1869 la destination de la toute première course d'endurance au monde entre deux villes. Elle fut le point d'arrivée d'une épreuve devenue mythe pour les aficionados du vélo. Une centaine de vélocipédistes du Second Empire ont, sans le savoir, posé les bases d'une passion populaire qui a traversé tout le XXe siècle, la course à vélo en milieu naturel. Ce soir donc, l'histoire du Paris-Rouen. Dans trois semaines, pour le week-end du 11 novembre, une course anniversaire sera organisée pour célébrer les 150 ans de ce Paris-Rouen. Une course cycliste qui prend le pouls de la France, du Second Empire donc à la Ve République. Rendez-vous compte, c'est un cas d'espèce, un cas unique. À vélo, au fil des époques, on traverse 150 ans d'histoire de France. Et ce soir, pour causer cyclisme entre l'Île-de-France et la Seine-Maritime, ils sont trois invités au micro d'Inter. D'abord, l'instigateur de cette course anniversaire, ingénieur à la retraite et passionné de vélos anciens, Guy Gaudis, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu.
Merci.
À vos côtés, un spécialiste de l'histoire du cyclisme en France, Pascal Sergent, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue.
Merci.
Et enfin, on ne le présente plus, à l'heure historique de Stade 2, il participera à cette course anniversaire entre Paris et Rouen. Gérard Holtz, bonsoir.
Mais oui, parce que j'aime le vélo, bonsoir.
Et oui, et bienvenue à vous. Vive le sport sur France Inter, c'est pour vous ça, Gérard. Soyez les bienvenus dans l'œil du tigre, c'est parti.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
Bien, on commence avec notre intellectuel de la semaine. Aujourd'hui, il s'appelle Paul Fournel, écrivain, romancier et prix Goncourt de la Nouvelle en 1989 pour un bref récit intitulé « Les athlètes dans leur tête ». Ce soir, Paul Fournel va nous causer de cyclisme et de littérature. Alors juste avant de vous raconter l'histoire de ce Paris-Rouen, s'il te plaît Fournel, dessine-moi l'esprit du sport.
Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
Il faut bien imaginer quel est le poids de la littérature dans l'histoire du vélo. Et c'est un poids gigantesque. Le vélo est tout tissé de littérature. Le vélo est une sorte de d'incitation à la littérature, d'abord, parce que c'est feuilletonesque. Il y a des méchants, il y a des bons. Ça recommence le lendemain, on se fout sur la gueule. Enfin, imaginez ce moment miraculeux où sont rassemblées trois personnes au journal L'Équipe. Il y a Jacques Godet, qui est le patron, qui est le taulier, et qui écrit... Victor Hugo au carré, c'est les grands cols immenses, la terreur des gouffres, c'est les choses absolument... Bon, mais vous avez Blondin à côté de ça, c'est l'humeur vagabonde, c'est le charme absolu, c'est le goût de la littérature, c'est l'histoire du texte, c'est un pur délice du début à la fin. Et vous avez Chani, qui est le structuraliste de l'opération, qui connaît l'histoire, qui connaît les noms, qui connaît tous les détails et qui nous expose tout ça. Vous avez ces trois styles. Moi, c'est là que j'ai appris la littérature, ce qu'était un style, ce qu'était une écriture. C'est dans L'Équipe, c'était là que j'ai appris la différence. Comment on pouvait le même sujet, les mêmes hommes, comment on pouvait les raconter à la manière de Godet, à la manière de Blondin ou à la manière de Chani. C'était là des choses tout à fait exceptionnelles. Donc la littérature et le cyclisme, c'est une union ancienne et une union puissante et forte.
Thank you. Walking in the Dark, une chanson signée Metronomy. Direction maintenant les 60s, mais celle du 19e siècle. Voici l'histoire du dimanche soir. Le dimanche 7 novembre 1869, il y aura donc 150 ans dans quelques jours, à 7h du matin à Paris, place de l'Étoile, une centaine de vélocipédistes européens s'apprêtent à prendre le départ de la toute première course d'endurance entre deux villes. Ces cyclistes du Second Empire doivent rejoindre Rouen à une distance de 123 km précisément. Ils ont un délai de 24 heures et le premier arrivé aura une prime de 1000 francs, soit plus d'une année de salaire d'un ouvrier français à l'époque, une fortune pour les coureurs engagés. Une question vient vite à l'esprit, à quoi ressemblaient les vélos de ce premier Paris-Rouen il y a 150 ans? Eh bien voici la réponse de l'historien du sport, Monsieur Jean Durie.
Et le Paris-Rouen de 1869 a été une page du cyclisme avec le premier campionissimo qui s'appelait James Moore. Il faut imaginer que les vélocipèdes Michaud, puisque c'était le type de l'époque, étaient en général des machines qui étaient des roues de charrette cerclées de fer. Dans quelques cas, il y avait des bandages en caoutchouc, mais enfin c'était le tout début. Et c'était des machines proprement énormes qui n'avaient bien entendu pas de chaîne, c'est-à-dire qu'il y avait le pédalier sur la roue avant, autrement dit à chaque coup de pédale, un tour de roue. Et je dis ça parce qu'ensuite, ça va expliquer l'apparition du grand bi. Car plus la roue avant est grande, plus on va vite à chaque tour de pédale. C'était des machines très très lourdes. Elles faisaient aux environs de 35 kilos. Et alors, le Paris-Rouen est parti vers les 7h30 du matin. Et James Moore a atteint Rouen vers 18h10, si mes souvenirs sont exacts. Il avait couvert 123 km à un peu plus de 12 km/h de moyenne. Mais il y avait déjà de nombreux coureurs à l'époque.
Paris-Rouen, 1869, 7 novembre, dans quelques jours donc 150 ans, 150e anniversaire de cette course mythique. Guy Gaudit, vous êtes ingénieur à la retraite, passionné par ces vélos très anciens. Pour commencer en quelques mots, Guy, pourquoi cette course est-elle devenue mythe pour les amoureux du vélo et du vélocipède?
Tout simplement parce que c'est la course des précurseurs du Tour de France et de toutes les courses qui auront lieu ensuite. Et donc, pour nous, amateurs de vélo des origines, on est absolument passionnés de redécouvrir ce qu'ont vécu nos ancêtres.
Et oui, donc vous organisez une course qui aura lieu le week-end du 11 novembre, une course en trois étapes qui va donc faire honneur, hommage, mémoire à ce grand Paris-Rouen de 1869.
Tout à fait. Alors, pour des raisons de sécurité, malheureusement, on n'a pas pu adopter l'itinéraire d'origine. Donc nous allons faire 50 km de plus, soit 173 km.
Et
à peu près dans les mêmes temps, si on considère les temps cumulés, la seule différence c'est qu'on va faire en trois étapes, mais en une trentaine d'heures, ce qui proportionnellement représente l'itinéraire qu'avaient fait nos ancêtres.
À l'époque. Parmi ces coureurs qui prendront le départ le week-end du 11 novembre, il y aura à peu près 20 coureurs. Il y a une vedette, une guest star de la course, qui est assise à côté de moi, il s'appelle Gérard Holtz, évidemment,
vedette,
tout
non,
le monde
vedette.
Le connaît, hein,
non.
Ce Gérard Holtz. Je vais juste faire un tout petit brief, parce qu'on est à la radio, on ne voit pas, mais c'est quoi un grand journaliste? C'est un type qui vient avec toutes ses fiches comme un historien. Voilà ce que c'est Gérard Holtz, il m'impressionne, il a toutes les fiches posées sur la table. On pourrait penser que non, Holtz, une mémoire, non, mais en fait, Holtz, il travaille, il a ses fiches, c'est incroyable.
Gérard, Philippe, vous savez pourquoi? C'est très simple, parce que les auditeurs qui nous écoutent, la plupart du temps, en savent autant que nous.
Mais vous avez raison.
Donc, on ne doit pas se tromper sur un chiffre, sur une virgule, sur un prénom. On peut très bien se tromper sur le prénom du président du Kazakhstan, mais on ne peut pas se tromper sur Eugène Christophe, sur James Moore,
absolument.
Voilà, ou sur Miss America,
absolument.
Dont on va parler
absolument.
Tout à l'heure.
Absolument, qui était une des femmes qui avait couru cette course de 1869. Gérard, vous prendrez le départ de cette course. Qu'est-ce que vous venez y chercher, vous, dans cette course anniversaire?
Alors d'abord, on est venu me chercher très gentiment. Guy Gaudit, passionné avec ses copains collectionneurs, un jour m'a appelé en disant: Gérard, est-ce que vous vous intéressez aux vieux vélos? Réponse: oui. Non seulement je suis intéressé, moi je suis fou de vélo. Je suis vraiment fou de vélo. C'est-à-dire le moindre vélo de quelque époque que ce soit, ça me passionne. Je trouve que c'est l'une des plus grandes inventions humaines de non seulement de ces derniers siècles-là, mais de l'histoire même de l'humanité. D'avoir conçu cet engin qui nous permet en pleine liberté de se déplacer sans faire de bruit, sans gêner personne, en écoutant les petits oiseaux, en respirant. Et c'est vrai, en plus, pour toutes les sortes de vélos. Donc pour moi, le vélo, c'est une invention exceptionnel, extraordinaire. Dieu sait si je suis fort en superlatif et que les guignols en particulier se sont bien moqués de moi pour ça. Et donc Guy m'a appelé un jour en disant « Est-ce que, Gérard, vous voulez bien être notre parrain ?» Et la réponse est oui tout de suite. J'adore ce genre de reconstitution. J'adore me déguiser d'abord.
Et vous aurez une tenue. Vous aurez une tenue d'époque.
Voilà, donc on est habillé la plupart du temps en cavalier, puisqu'il n'y avait pas encore de tenue de cycliste, bien sûr.
C'est les pionniers.
Voilà, la plupart du temps, on a un pantalon comme les cavaliers de l'époque, des bottes, une bombe, parce qu'il faut mettre quand même...
Une bombe de cheval, comme l'équitation.
Une bombe de cheval, voilà, des gants. Moi, j'avais remis une petite moustache même, parce qu'à l'époque, c'est vrai que tous les coureurs, tous les hommes avaient des moustaches. Et je suis fier de participer, d'être le parrain. Je me suis entraîné pour ça, j'ai repris d'abord...
Donc sur un vieux vélo, vous serez sur un vélo d'époque.
Il a 150 ans. Alors le mien n'est pas un Michaud, le mien est un Benon, n'est-ce pas ? Et là je me tourne vers Guy, parce qu'il était aussi un constructeur de l'époque d'il y a 150 ans.
C'était un des très grands constructeurs de l'époque, oui. Monsieur Michaud n'était pas très doué pour les affaires, il avait un peu oublié de breveter son invention, ce qui fait qu'il a été rapidement copié par de très très nombreux constructeurs. Alors ça a certes participé à l'envolée du vélocipède, mais ça n'a pas assuré la célébrité de Monsieur Michaud, tout du moins pas très longtemps.
Pascal Sergent, vous êtes un fin connaisseur du cyclisme en France. Cette course par Rouen, elle a été lancée par un magazine, par de la presse écrite, qui s'appelle le Vélocipède Illustré. C'est quoi la motivation première ? Pourquoi cette course est organisée en 1869, Pascal ?
Parce qu'il y a déjà des prémices en 1868, puisque James Moore avait déjà gagné une épreuve le 31 mai 1868 à Saint-Cloud, dans le parc de Saint-Cloud. Et James Moore avait remporté quelques autres victoires.
Donc des petites courses, hein, des petites 15 courses, bornes, 20 bornes.
Ces courses se déroulaient dans des parcs.
C'était des courses d'un kilomètre.
C'était des courses dans
un
des parcs.
Un ou deux kilomètres. C'était des sprints extrêmement courts.
D'accord. Sur des très petits parcours. Par contre, ces courses se multiplient en 1868 et par exemple en 1869, avant Paris-Rouen, donc simplement sur la période de juillet août, il y a 120 courses en France. Donc ça s'est développé d'une manière extraordinaire et très rapide. Donc il y a eu des compétitions à Dunkerque, à Roanne, à Rouen qui était déjà un fief du cyclisme, à Paris naturellement, à Toulouse, à Montpellier, à Lyon. Et donc ça a pris une extension rapide et c'est pour ça que l'Éclide, dit le Grand Jacques, a créé le Vélocipède Illustré pour pouvoir expliquer, remettre les résultats, faire déjà un peu de publicité, puisqu'il y avait déjà un peu de publicité dans le Vélocipède Illustré, et c'est comme ça que c'est parti.
Pourquoi Rouen ? Pourquoi Rouen ? Pourquoi pas ailleurs ? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit Paris, Rouen ? Il y a quelques réponses qui surgissent. Est-ce que vous avez la réponse ?
Alors, il y a plusieurs réponses possibles. L'une des réponses est qu'il existait un vélos club à Rouen qui était extrêmement actif. Et donc, c'était faire plaisir quelque part aux Rouennais que
C'était un fief du cyclisme, déjà. Voilà.
Et puis, très probablement, il y avait aussi la présence de la ligne de chemin de fer, Paris-Rouen, qui était extrêmement utile à l'organisation pour suivre de loin en loin, faire les contrôles nécessaires sur...
Suivre la course en train à côté. Absolument. Il y a aussi, je crois, une mode, une très grande mode de l'époque, qui est l'anglophilie. Hein. On est fasciné dans le Second Empire par cette Angleterre de la révolution industrielle. D'ailleurs, on dit les vélosmen, on ne dit pas les vélocipédistes. On est influencé par l'Angleterre. Et donc, vers Rouen, on monte aussi vers l'Angleterre. On dit que Rouen aurait été aussi choisi pour une sorte de clin d'œil. D'ailleurs, James Moore est anglais, le vainqueur de la course de l'époque.
Oui, il est anglais, mais enfin, il faut quand même préciser qu'il vit en France à cette
époque. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est quand même une sorte de clin d'œil vers l'Angleterre, sans doute. Alors, pour cette course, les bicycles sont autorisés, les tricycles, les quadricycles, les Parisiens, les provinciaux, les Français, toutes les formes, les hommes et les femmes. Il y a 4 femmes au départ, et il y a donc cette Miss America, Gérard Holtz, qui va arriver jusqu'au bout de la course, elle finit 27e, je crois. Est-ce qu'on sait un peu qui elle est, Gérard, cette Miss America ?
Non, mais pas trop, justement, parce qu'en plus, on l'a appelée Miss America pour pas donner son nom.
D'accord.
Il y a déjà de la misogynie qu'ensuite on va retrouver avec le baron Pierre de Coubertin, que j'ai vraiment dans le collimateur, parce que pour les Jeux Olympiques, il a empêché les femmes de participer pendant plus de 24 ans.
Mais bien sûr.
Mais déjà, à l'époque, ça pointait. C'était très particulier de voir des femmes sur les vélocipèdes. D'abord, à cause de la tenue, parce qu'il fallait absolument faire ça en robe. Certains pantalons commençaient à exister, les pantalons de golf ou les choses comme ça pour les femmes. Et c'est vrai qu'on n'a pas voulu donner son nom, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'on sait un peu qui elle est, Guy, ou pas, ou Pascal ?
Un petit peu. Elle était avec Monsieur Turner. Qui lui-même était marié par ailleurs.
Et pas donc, Ted Turner, c'est pas déjà vivant, lui.
On pense qu'il était un fabricant de vélocipèdes, et on pense qu'elle n'était pas que son accompagnatrice. Voilà.
D'accord.
Pour l'anecdote, ils ont dormi à Pont de l'Arche quelques heures avant l'arrivée.
Un cachot.
On n'a pas le numéro de la chambre ni de l'hôtel, le nom de l'hôtel.
Pascal, donc on n'en sait pas beaucoup plus. Et par contre, il y a un certain nombre de coureurs dont on ne connaît pas le nom, puisque à l'époque, il y a beaucoup de coureurs qui ne souhaitaient pas donner leur propre nom. C'est pour ça que dans le classement, il y a parfois simplement une initiale ou un prénom, parce qu'à l'époque, certains coureurs qui s'engageaient avaient peur d'avoir une mauvaise renommée, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, le cycliste était mal vu. Il y avait eu des campagnes contre le cyclisme, parce qu'on avait peur de ces gens un peu fous qui roulaient sur des vélocipèdes, qui arrivaient en pleine rue. Il y avait eu d'ailleurs quelques premiers accident en 1868, des personnes qui avaient été renversées. Donc il y avait une campagne déjà un petit peu néfaste pour le cycliste.
C'est très particulier ce qui s'est passé au moment de l'invention du vélocipède, que d'un côté, on a eu une mode avec des gens riches, il faut le dire, qui pouvaient s'acheter ces machines-là, dont l'un des ambassadeurs a été extraordinaire, c'est le prince impérial, c'est le fils de Napoléon et de Génie de Montiro, qui lui s'entraînait presque tous les jours parce qu'il y a eu un coup de foudre pour le vélocipède. Donc d'un côté, on avait des gens riches, souvent des nobles, qui avaient les vélocipèdes, et puis de ceux qui sentaient qu'il se passait quelque chose. Et puis de l'autre côté, c'est vrai, on a jeté des pierres contre les vélocipédistes. On les a empêchés de courir. Certains, on les a fait tomber. En plus, je peux vous le dire, je suis en train de m'entraîner presque tous les jours, moi, avec le vélocipède. C'est particulièrement instable. Je ne suis pas tombé autant que Tolstoï ou que Mark Twain, qui étaient des champions du monde pour la chute.
Oui, oui.
Vous savez, à propos de Mark Twain, par exemple, son marchand de vélo avait expliqué que il n'avait jamais vu un homme qui avait inventé autant de façons de tomber de son vélo que Mark Twain. Donc, pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé, mais c'est vrai que une partie de la population voyait d'un mauvais œil ces vélocipèdes.
Absolument.
Guillaudy, le premier, donc arrivé à Rouen et arrivé vers 18h25, je crois qu'il y a une prouesse. Hein, c'est 10 heures de course, qui est une prouesse pour l'époque. Hein, c'est James Moore, c'est fantastique.
Ah, mais même aujourd'hui, moi, je suis admiratif. Ça veut dire qu'il a fait du 12 km.
C'est impressionnant sur ces engins-là.
Il faut savoir qu'avec le développement d'un vélocipède qui est relativement faible, on mouline énormément. Et rouler à 12 km/h, c'est grosso modo presque une cadence de pédalage de 90 tours minute. Gérard Rolls pourra vous le dire, c'est une performance d'athlète.
Oui, mais absolument, c'est incroyable.
Il est venu me voir m'entraîner, Guy Gaudy, là, et j'étais gentiment, moi, à tourner les jambes comme ça, sur la roue avant. Donc on est bien d'accord, on a les deux pédales sur la roue avant et on est en pignon fixe. Donc on ne peut pas s'arrêter de pédaler.
Sinon, on tombe.
Il a repris ensuite le vélocipède et il m'a dit regarde le vrai rythme avec lequel on va aller vers Rouen. C'était très élevé.
Guy Gaudy.
Notre problème, c'est que nous faisons ça pratiquement en hiver, donc le soleil se lève à 7h, se couche à 17h. Il va falloir rouler à 10 km/h de moyenne.
Tenir un rythme.
Et donc, en plus, apparemment, pour le Paris-Rouen donc, de 1869, là je vais parler sous le contrôle des deux historiens, il a fait très mauvais temps.
Oui.
Très mauvais sens.
Ça a été épouvantable.
Pascal, c'est
très froid, de la pluie sur certains tronçons du parcours, et les coureurs ont vraiment souffert toute la journée.
Moi, ce que j'ai trouvé charmant dans l'approche de ce dossier, c'est de trouver des noms que je connaissais pas, évidemment. Le premier, donc un Anglais, le second est un Français qui s'appelle Céleste Bobillier de Voiron, un type complètement disparu des mémoires aujourd'hui, évidemment, mais qui avait l'air assez fantasque. Est-ce qu'on connaît un peu qui est ce type? Il a l'air assez incroyable. Il avait 20 ans à l'époque, je crois.
Ils ont quasiment tous 20 ans. Puisque James Moore a 20 ans quand il gagne. Et derrière, au départ, on se demande qui peut l'emporter. On sait que James Moore est très bon. Maintenant, sur 123 km, c'est une épreuve qui n'avait jamais été faite dans ces conditions-là. Il y a Castera qui est juste derrière. Il y a Bobillier qui est derrière. Il y a Dupuis qui est derrière. Donc, il y a un certain nombre de coureurs relativement connus. Mais là, c'est l'aventure. Les coureurs partent pour l'aventure. Quant après, on a énormément de mal à avoir des éléments sur ces coureurs, puisqu'il y a un creux après Paris-Rouen. Hélas, la guerre contre les Prussiens, et le cyclisme va être en léthargie pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc les éléments historiques, c'est très difficile à retrouver. Bobillier, on sait que c'était un fantasque, hein, puisqu'on l'a vu lors de ses passages aux différents contrôles.
À s'amuser, à vraiment
chicaner, comme on disait à l'époque, avec les contrôleurs. Mais c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des éléments complémentaires par rapport à ça.
Guy Gaudy.
Alors, il est un peu atypique, Bobillier. C'est quelqu'un qui mesure 1,90 m. C'est pas très commun à l'époque. Donc, évidemment, ça rajoute à sa puissance de pédalage. Et effectivement, comme ça vient d'être dit, il a l'air de survoler la course, quoi. Là où certains s'écroulent d'épuisement, on les ranime quasiment, lui passe comme une fleur. Et donc, on se pose même la question de savoir quel est l'ordre d'arrivée exact. Puisqu'il y a eu un débat entre Castera et Bobillier. Ils se sont déclarés ex aequo. Mais il est, enfin, selon toute logique, Bobillier est arrivé second.
Et, oui.
Et on pense que c'est peut-être la compagnie parisienne qui a un peu insisté pour qu'au moins un de ses vélos arrive au palmarès
à une place intéressante. Évidemment. Ce qui est fascinant avec cette course historique, c'est qu'en effet, je pense que c'est unique, vous allez me confirmer ça ou me mais c'est unique, c'est-à-dire qu'on est sous le Second Empire, le Paris-Rouen va se courir tout au long du XXe siècle jusqu'à la Ve République. Donc on peut imaginer que les coureurs ont pris des rues, des avenues, des places du général de Gaulle, du président Wilson, d'Émile Zola. C'est à travers cette course, on peut raconter l'histoire de France. C'est assez fascinant. Guy Gauthier ?
C'est pas mon domaine de prédilection, excusez-moi.
Alors Pascal, est-ce que c'est vrai que vous connaissez très bien Paris-Roubaix, vous aussi également. À travers ces deux courses cyclistes-là, on peut prendre le pouls de la France. C'est intéressant.
Bah oui, on va pas reparler de Paris-Roubaix, mais simplement, par exemple, en 1907, il y a la catastrophe de Courrières, et donc ça modifie complètement la course, l'approche de la course, et ensuite, donc les événements historiques reviennent systématiquement dans la course, et la course revient aussi dans l'histoire. Il y a un parallèle qui est continu.
Oui, par exemple, pour la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de Paris-Rouen, et pour cause, le front est là, évidemment. Mm-hmm. Pour la Seconde Guerre mondiale, on court le Paris-Rouen. C'est aussi l'occupation, mais c'est bien de divertir aussi la population française. C'est vrai qu'à travers ces courses-là, on peut faire toute une histoire du XXe siècle en France, qui est assez passionnante. Par ailleurs, il y a des conséquences à Paris-Rouen. On l'évoquait, mais c'est la première course entre deux villes. Donc, avec le recul du temps, on peut presque dire que germe là le Tour de France, Pascal Sergent.
Oui, c'est vrai. Donc, à la seule réserve, comme je le précisais, qu'il y a cette coupure de 10 ou 15 ans, puisqu'en fait, les compétitions réelles reprennent Bordeaux-Paris 1891, Paris-Tour et Paris-Roubaix en 1896. Mais c'est vrai que le fondement même et l'Éclide a été vraiment un précurseur. On parle d'Henri Desgranges comme le précurseur et surtout Géo Lefèvre qu'on oublie trop souvent.
Et Pierre Giffard.
Et Pierre Giffard, bien sûr. Sur le Paris-Brest et sur le Bordeaux-Paris. Mais l'Éclide a été vraiment un précurseur. Mais il avait aussi en tête son journal Le Vélocipède Illustré. Donc, d'ailleurs, dans son Vélocipède Illustré, il précise « Nous sommes les seuls à donner le bon classement. Nous sommes les seuls à avoir expliqué le déroulement de la course. Ne lisez pas ce qu'on peut lire à droite et à gauche. D'ailleurs, ensuite, on en parle très peu de Paris-Rouen, puisqu'il y a le Vélocipède Illustré, les grandes pages, et dans quelques journaux parisiens, on avait par exemple dit James Moore gagne de manière éléphantesque, hein, puisque c'était à l'époque on était très 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 lié à l'histoire en général, et puis les animaux exotiques. Donc on avait fait un petit lien comme ça. Mais ensuite, c'était surtout Vélocipède et qui faisait de la publicité. On y revient.
Guy Gauthier ?
J'engagerai volontiers vos auditeurs à lire auprès de la Bibliothèque Nationale de France ou sur notre site internet qui s'appelle vélocipédiste.com, vélocipédiste au pluriel, le Vélocipède Illustré du jeudi 11 novembre 1869, où il y a un récit de course qui, sincèrement, est absolument stupéfiant.
Divin. Et d'ailleurs, récit de course, Gérard Holtz, c'est aussi le début du journalisme sportif, quelque part. Parce que c'est sans doute une des premières fois qu'un journaliste va écrire dans un magazine pour rapporter une course cycliste.
Il y a un lien absolument direct, d'ailleurs, entre ces grandes courses de vélo et de vélocipèdes, là, et le développement des journaux et le travail des journalistes. Mm-hmm. Ça se voit dès Paris-Rouen, là, avec le Vélocipède Illustré, et ça se verra encore beaucoup, beaucoup mieux avec, justement, Pierre Giffard, qui pour moi est un homme, c'est un génie, qui est un peu trop oublié. C'est un type qui avait senti l'importance du vélo, l'importance du développement du vélo pour tout le monde, à la fois pour le remplacement du cheval, par exemple, et pour se déplacer, pour aller travailler, pour le loisir, pour tout. Il avait tout compris, Pierre Giffard, et c'est lui qui a lancé le magazine Le Vélo, et en inventant Paris-Brest-Paris et Bordeaux-Paris aussi, hein, je ne me trompe point. Et puis ensuite, il y aura Desgranges avec le Tour de France et avec l'auto-vélo. Donc, pendant très longtemps, les grands journaux se sont appuyés aussi comme un moyen de promotion avec ces belles et ces grandes courses. Ouais.
Allez, 18h36 sur Inter, c'est le retour de l'orchestre, dirigé cette fois par Alain Souchon. Le titre joué, Am 50s, Vive le Crotoy et sa baie de Somme, les vrais savent, ainsi soit-il.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris, sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Derrière, I'm 50s, I'm 50s, dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats. Les montagnes algériennes, la Picardie est belle, sur la route ravie, en arrond de plein ciel, qui rentre à Paris. I'm 50s. Rue Campagne Première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dos. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme. Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, y a un coiffeur. I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, Armin, Monique, Frégate, Transfluide, Vedette, Abeille, Patrick, Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux, Renault, Roger, Jacqueline, quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise.
L'œil du tigre. Philippe Collin.
Mais auparavant, je tiens à vous signaler que le reportage cycliste que nous devions voir à 15h45, nous le verrons en fait un petit peu plus tôt. C'est en effet vers 15h30 que nous nous rendrons à Chambéry pour assister à l'arrivée de l'étape du jour du Critérium des Six Provinces. En effet, les cyclistes ont pris un petit peu d'avance.
Sur France Inter.
Les vélocipédistes arriveront-ils en avance à Rouen le 11 novembre prochain? Une course de 3 jours pour célébrer le 150e anniversaire du Paris-Rouen, une des plus anciennes courses cyclistes au monde, dont la première édition eut lieu le 7 novembre 1869. Une course en mémoire d'un monde enfoui, ou comment envisager le vélo comme un véhicule mémoriel. À vélo, on entretient des souvenirs à la manière de l'essayiste et historien du cinéma Patrick Lebout. Que regarde-t-il quand il voit les coureurs passer?
Je sais, quand je regarde une course cycliste, je sais ce que je regarde. Je ne regarde pas des coureurs seulement, je regarde un monde en passe d'extinction ailleurs. Je regarde une culture ouvrière. Pour moi, les coureurs cyclistes, c'est la dernière classe ouvrière visible, c'est la dernière classe ouvrière en mouvement. C'est le seul métier où l'homme ne sera pas balayé par la machine. Parce que s'il n'y a pas un homme dessus, sur la machine, ben, ne tournera pas. C'est comme dans le cinéma. C'est vraiment, je vois d'où je viens quand je regarde une course. Il y a un côté social, tout de suite, instantanément. Je me reconnais dans une communauté, dans un vieux spectacle venu de loin, plus d'un siècle. C'est une nostalgie ambulante, une course cycliste, dans la mesure où ça évoque quand même le temps où on se parlait. Ça évoque les bistrots où on buvait du genièvre, dans les kermesses en Flandre, en attendant de les voir passer. Ça évoque le temps des bords de route. Ça évoque l'enfance. Ça évoque un monde avec des valeurs parfois très chevaleresques, alors que c'est un monde de prolo. Ça évoque tout ça. Moi, quand je regarde une course, je vois le monde d'où je viens et j'aimerais bien qu'il ne disparaisse pas trop vite.
Gérard Holtz,
quelle merveille
de Patrick Lebout, magnifique. Il vient de dire que le cyclisme est une nostalgie ambulante. Gérard, vous participerez, vous, à cette course dans 3 semaines, qui est une course anniversaire entre Paris et Rouen. Est-ce que ça vous parle, ce que vient de dire Patrick Lebout? Est-ce que vous sentez que ce monde disparaît? Est-ce que ce vélo-là est en train de disparaître tout doucement?
100%.
100%.
100%. Et tous les mots qu'il vient de prononcer correspondent exactement à ma philosophie du vélo et à la philosophie de tous ceux qui aiment le vélo. Il y a une citation formidable de Pierre Giffard dont on parlait tout à l'heure dans le Petit Journal. Il dit « La bicyclette, c'est plus qu'un sport et c'est plus qu'un moyen de locomotion, c'est un bienfait social ». C'est exactement
ça. Oui, c'est ce que dit Lebout. C'est exactement ça.
Après, Céline dira que c'est un concours de grâce.
Oui.
Ça, c'est vrai aussi.
Oui.
C'est vrai, c'est absolument vrai. Il vient de là de prononcer, Patrick Lebout, là, une phrase formidable qui est « C'était le temps où on se parlait ». On regardait passer les cyclistes. Alors, que ce soit course, ou que ce soit le facteur, ou que ce soit le garde champêtre, ou que ce soit les copains qui roulent le dimanche matin et qu'on regarde passer, on regarde quel vélo ils ont, la façon dont ils regardent. Ma femme, ma Muriel d'amour, un jour, je l'emmène sur le Tour de France, on voit passer le peloton, et je lui dis, chérie, tends l'oreille, tu vas voir comme c'est beau le son d'un peloton
c'est
qui
sublime.
Passe. Ça en fait partie.
C'est sublime.
Voilà, ça en fait partie.
C'est une mélodie, un peloton qui
c'est
passe.
C'est ça la beauté de la bicyclette.
Absolument.
C'est ça, la liberté et la beauté.
Pascal Sergent, un mot sur ce que vient de dire Patrick Lebout. Est-ce que vous ressentez, vous, que ces grandes classiques appartiennent à un monde un peu révolu déjà ou
Le cyclisme a beaucoup évolué, entre Paris-Rouen, puis déjà le premier Tour de France, et puis surtout depuis les années 70-80. Et Patrick Lebout, qui est un fin spécialiste du cyclisme et
très grand spécialiste.
Un sociologue d'ailleurs, puisqu'il a travaillé
au départ, il est sociologue.
C'est vrai que le cyclisme évolue. Le cyclisme d'aujourd'hui n'est plus celui des années 90. Quand on parle d'Hinault, parfois... Bernard Hinault. On a l'impression de parler d'une période préhistorique. Mais c'est la vie. C'est la vie, ça avance. Et le cyclisme changera encore. Il faut garder un maximum de pratiquants.
Ça,
c'est l'essentiel.
Guy Godillet, allez-y. Vous êtes l'instigateur de la course anniversaire.
Certes. Puisqu'on en est aux citations, moi je voudrais vous en lire une qui me paraît intéressante. D'Aimé Ventrier, bibliothécaire en chef de la ville de Lyon, il écrivait à cette époque-là, « Dans l'énumération des âges, on appellera 1868 l'année du vélocipède, comme on dit de 1497 l'année de la découverte de l'Amérique. » Et je trouve que c'est très vrai. C'est une machine qui a absolument révolutionné le monde. Quel pays, aujourd'hui, où il n'y a pas de vélocipède?
C'est mondial.
De vélo, tout du moins, de bicyclette.
Est-ce qu'on pourrait faire un petit récit historique rapide de ce que c'est que le vélo? Parce qu'on entend beaucoup de choses, le vélocipède, la draisienne, le grand bi. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel rapide? Gérard Holtz lève le doigt.
Oui.
Alors, allons-y,
alors,
Gérard.
Je commence.
Alors, commencez, Gérard Holtz.
La première grande explication, et même polémique, a concerné Léonard de Vinci.
Oui.
On s'est demandé pendant très très longtemps si dans ses carnets à la page 133, c'était lui ou non qui avait dessiné le premier vélo.
C'est les petits-fils de Gérard, ça.
Et 133. La réponse, c'est non.
Oui.
La réponse, c'est clairement non.
Oui.
On pense que éventuellement, ça a été fait après, ou éventuellement, de toute façon, c'était un de ses élèves qui aurait fait ce vélo. Donc, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'était plutôt un fake.
Un fake news. Un mytho.
Non, en revanche, après, et là, je vais laisser
Guy
parler Guy Godi.
Allez-y, faites-nous le résumé.
Le plus curieux, c'est qu'il y a une deuxième fake news qui continue encore à se propager de nos jours, qui serait un vélo né juste après la Révolution, dénommé le Célérifère, vélo qui n'a jamais existé, et dont on pense que les Français ne supportant pas que les Allemands et la paternité de la Draisienne auraient inventé cette machine qui n'aurait pas eu de guidon pour laisser à M. Drey simplement l'invention du guidon. Voilà. Alors, soyons très clairs, l'invention du vélo remonte à 1817. Le baron Drey von Sauerbronn Kuhn, allemand, de son état, qui invente cette machine totalement improbable à deux roues en ligne, instable par construction, dont on se demande bien à quoi elle peut servir, et qui va s'apercevoir rapidement qu'on peut tenir l'équilibre. Il va l'amener en France en 1818, au Jardin du Luxembourg, où évidemment les Français étant très critiques, il va essuyer quelques quolibets du style « les enfants dépassent à la course la Drésienne ». Ça va pas être un succès très franc, dans la mesure où cette machine est très difficile à piloter, fatigante. Et c'est là qu'intervient Monsieur Michaud, en 1861. Il est serrurier en voiture, donc comprenez les voitures hippomobiles.
En calèche, on va dire.
Calèche, voilà. Si vous voulez. Il aurait, alors j'emploie le conditionnel parce que c'est des faits qui sont rapportés ensuite par ses enfants et donc les historiens actuellement ont des doutes. Mais bon, l'histoire actuelle voudrait que en 1861, il ait à réparer une Drésienne. Le fils Ernest essaye du côté de l'avenue Montaigne, très industriel à l'époque, la Drésienne en question, revient voir son père, lui dit qu'il est très inconfortable de pas savoir où mettre ses pieds et il cherche à mettre un marchepied. Et puis, leur vient l'idée de mettre une manivelle, comme sur une meule, disent-ils. Et ce faisant, ils inventent le pédalier et la pédale. Et là, ça rend la machine diablement efficace. Alors, ils vont commencer à produire de façon très artisanale. Mais, en fait, le véritable succès va arriver avec deux petits jeunes totalement inconnus, qui s'appellent les frères Olivier, René et Aimé. Qui vont comprendre le potentiel de cette machine. Ce sont des jeunes centraliens, ils ont un peu plus d'une vingtaine d'années, et ils vont tenter un premier voyage, là où c'est un véhicule de loisir, eux tentent un voyage Paris-Avignon, où leur père a une usine de produits chimiques. Et ils vont réussir, paraît-il, en une dizaine de jours. Bon, nous on a essayé de leur faire en 15 jours, on a eu du mal. L'histoire veut qu'ils aient réussi et qu'à leur retour, ils aient proposé à Monsieur Michaud d'investir dans l'affaire, de créer Michaud et compagnie et de commencer à produire plus industriellement que ne le faisait Monsieur Michaud des vélocipèdes. Donc le vélocipède, c'est cette première machine à pédale, pour moi l'ancêtre de la bicyclette, puisque la Drésienne n'ayant pas de pédale, j'ai un peu de mal à la classer dans la catégorie bicyclette.
Et donc c'est sur ce type de vélo que vous courrez le 11 novembre avec Gérard Holl, sont sur une vingtaine de vélocipèdes, mais qui sont d'époque, qui
absolument.
Sont très anciens.
Absolument, tous ces vélocipèdes sont d'époque, oui. Donc ils datent de la haute époque, c'est-à-dire aux alentours de 1868-1869.
D'accord,
des antiquités. On a juste dû faire une petite concession, mais elle est minime, c'est qu'il a fallu remplacer les roues, parce que des roues datant de cet âge-là ne résisteraient pas à 173 km.
Pascal Sergent.
Oui, il y a un lien direct d'ailleurs entre Michaud, Ernest Michaud, donc le fils de Pierre Michaud, et James Moore, puisque en fait, le premier vainqueur de Paris-Rouen, James Moore a débuté sur son vélo grâce à Michaud, puisqu'il était ami du fils Michaud. Sans peut-être cette connaissance, James Moore n'aurait peut-être jamais roulé en bicyclette.
Et vous m'avez dit, Guigaudy, pendant le disque, qu'en effet, le fils de Napoléon III était tellement aficionado du vélocipède qu'il était surnommé dans Paris Vélocipède 4. Donc, père était donc Napoléon III. Gérard Holl, un mot.
Moi, ce qui m'a fasciné dans toute cette histoire-là, c'est au moment où le baron von Dresse va inventer sa machine.
Drésienne.
Parce que ça, c'est une révolution. D'avoir pris une poutre, deux roues semblables et surtout un guidon
en ligne,
qui tournait.
Deux roues,
voilà,
en ligne.
C'est ça. Que tout est dû à un volcan indonésien. Quand on pense à ça, moi, je ne le croyais pas. Quand je l'ai lu quelque part, je me suis dit, c'est pas possible.
Ça veut dire
encore,
quoi?
C'est encore un truc
allez,
faux.
Racontez.
C'est encore un truc. En quelques mots.
Racontez.
Le volcan Tambora en Indonésie est dans une éruption phénoménale. Il y a un tsunami. Il y a un nuage de poussière qui envahit non pas seulement l'Indonésie, le monde entier. Et les années 1816-1817 sont des années pratiquement sans soleil. Le prix du blé va doubler. Le riz, il ne sera même plus acheminé. Il y aura de la neige à Boston au mois de juin. C'est-à-dire que le monde entier va subir cette histoire du volcan. Et c'est l'idée du baron von Dresse de dire les chevaux, on ne peut plus les nourrir. Les chevaux sont en train de mourir. Donc il faut trouver un moyen de se déplacer. Il va inventer la Drésienne pour ça. Quand on y pense, ça c'est la grande histoire. C'est la grande et la belle histoire.
Guigaudy.
Alors je vais tempérer un peu les propos de Gérard. C'est une belle
histoire. Soyez pas rabat-joie.
C'est une belle histoire, mais.
Soyez pas rabat-joie.
Mais je suis pas rabat-joie, mais on n'a pas de preuve formelle que c'est bien la raison pour laquelle M. Dreyse.
C'est une possibilité.
C'est une possibilité.
Bon, voilà. Écoutez, on va la prendre pour nous
mais
ce soir.
Elle est belle.
Mais c'est tellement beau.
Mais absolument, c'est tellement beau. Gérard Hans, moi, je me souviens de vous à la télévision, quand j'avais 14, 15 ans, j'aimais beaucoup le Tour de France, et je me souviens qu'à la fin des années 80, s'est pointé un Américain. Greg LeMond, grand champion du cyclisme mondial. Et puis un jour, il est sorti dans un contre-la-montre, sorti de la boîte, avec une roue lenticulaire, avec un casque profilé, avec un guidon où il avait les deux coudes côte à côte pour gagner du temps. Et je me souviens qu'on voyait le vélo comme quelque chose presque de la science-fiction. On se projetait vers l'avenir du vélo. Et tout d'un coup, ce soir, on est là tous les quatre et on parle du grand bi, du vélocipède, et c'est très bien. Mais est-ce que ça dit pas aussi un peu l'époque, Gérard? C'est tout d'un coup, ce soir, on parle pas de vélo science-fiction, on parle d'un vélo d'il y a 150 ans. Ça dit un peu aussi les angoisses du moment, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, parce que je pense qu'on a toujours besoin d'avoir des racines. Je pense qu'il faut toujours revenir en arrière, justement, pour mieux vivre et pour reparler, comme tout à l'heure disait Patrick Lebout, pour se reparler les uns les autres, pour savoir d'où on vient. Pour moi, c'est essentiel, savoir d'où on vient. Moi, je reparle souvent de mon père qui était maroquinier dans le Marais, parce que ça m'a fondé, ça m'a donné l'envie d'abord de faire ce métier, et puis ensuite, il m'a offert, par exemple, le goût de l'effort. Ben, c'est un peu dans le même style, ce qu'on fait nous là. C'est-à-dire de dire, n'oublions pas que le vélocipède, c'est vraiment, vraiment l'ancêtre du vélo tel qu'aujourd'hui est vendu dans des millions d'exemplaires. Et puis en plus, avec des styles complètement différents. Quand on a le VTT, évidemment, on a le fixie, le fameux fixie des jeunes. C'est-à-dire, on retrouve le pignon fixe pour les villes.
Et grosse puis on a mode surtout le vélo aujourd'hui.
Hein, et on a le vélo électrique.
Le vélo électrique,
aussi.
Absolument.
Voilà. Donc, toutes les inventions de ces dernières années, y compris de Greg LeMond ou de Miguel Indurain, avec sa Spada, qui était son vélo ultra moderne, qui était bluffant. Mais en même temps, n'oublions pas que des gens ont inventé des choses pour nous faire plaisir et nous permettre d'utiliser ce moyen exceptionnel.
Guy Gaudy.
On n'imagine pas, c'est un progrès quasi exponentiel dont on est en train de parler, alors que c'est une histoire très récente. Imaginez que nous avons comme invité d'honneur pour le Paris-Rouen cette année, le petit-fils de James Moore, John Moore, le petit-fils seulement.
Oui, c'est vrai que c'est...
Il a certes 85 ans, et son grand-père est décédé
incroyable.
Quand il en avait deux, mais ça n'est que le petit-fils.
Et c'est incroyable. Pascal Sargent, un mot là-dessus
sur... Oui, c'est extraordinaire quand on voit... Histoire très récente, l'évolution, Greg LeMond, on parlait tout à l'heure de Greg LeMond, l'évolution s'est faite aussi en partie aux États-Unis, puisque Greg LeMond a emprunté son fameux guidon triathlète, justement dans les épreuves de triathlon, puisque le triathlon a débuté quasiment aux États-Unis, et donc il a emprunté ça pour battre Laurent Fignon, on s'en rappelle, de quelques secondes
à l'arrivée sur les Champs-Élysées.
Et c'était limite d'ailleurs du règlement.
Absolument, parce que si les commissaires à l'époque avaient été vraiment attentifs, Greg LeMond ne pouvait peut-être pas prendre le départ donc avec ce guidon. C'était pas expliqué réellement
dans le règlement.
C'était limite, voilà. Et il a profité.
Et il a gagné 8 secondes.
Il a gagné 2 secondes le Tour de France. Et ça venait des États-Unis, et cette évolution venait de là-bas.
Gérard, vous avez parlé de votre père et de votre enfance il y a quelques instants. Je crois ça, vous avez eu une tuberculose enfant, vous avez été très malade, vous avez passé beaucoup de mois en sanatorium, et puis on a fini par vous dire, Gérard, vous êtes sauvé, mais le sport, c'est plus jamais. Vous avez voulu plus de 70 ans, c'est bien de le dire.
73.
Ouais. 73 ans, vous allez faire ce Paris-Rouen, plusieurs dizaines de kilomètres sur 3 jours. Le sport, c'est pas que votre passion, c'est aussi toute l'histoire de votre vie. 73 ans, vous remontez sur ces vélos-là, c'est vous dire... C'est une nique à la vie aussi, quand même, non? Ou à la mort, en tout cas.
Ouais, moi, je suis un mec, comme dirait Michel Audiard, je suis un mec de défi. Il fallait pas que le médecin me dise jamais de sport. Il fallait pas qu'il me dise ça, quoi. C'est tout. Comme j'ai eu un prof qui venait de France Inter, d'ailleurs, qui s'appelait Claude Guillaumin, qui un jour m'a dit jamais de radio et jamais de télévision. Faut pas me dire des trucs comme ça, parce que dans ces cas-là, ça me motive encore plus. Et là, quand Guy Gaudy m'a appelé avec ses copains collectionneurs pour dire est-ce que tu veux être le parrain, évidemment, j'ai voulu participer parce que je trouve que c'est une jolie folie. Voilà. Et puis c'est bien de rendre hommage à ces pionniers qui ont inventé cet engin dont je dis et je continue de dire que c'est un bienfait social, exactement comme Pierre Giffard, quoi.
Vous avez 30 secondes chacun maintenant, tous les trois. Donc 1 minute 30. C'est la radio, hein, on tient le coup. Hein. 30 secondes chacun. Qu'est-ce que vous devez chacun dans votre vie au vélo? On commence par qui ? Pascal Sergent, qu'est-ce que vous devez ouvrir, Pascal ? 30 secondes.
30 secondes, pas possible. Alors, plein de choses. Oui. Beaucoup de satisfaction, d'énormes satisfactions. Et le vélo, c'est la vie. C'est une école de la vie. On apprend, on est dans un peloton, que ça soit en compétition ou en cyclotourisme ou en cyclosportive, pour l'étape du Tour Paris-Roubaix ou Tour des Flandres, par exemple. C'est l'école de la vie. Et donc, il faut savoir aider, s'entraider. Il faut savoir aimer la, surtout aimer la compétition, aimer se surpasser. Mais pour moi, en un mot, c'est la vie.
Très bien, parfait. 28 secondes. À vous, Guy Gaudy.
Eh bien, pour ce qui me concerne, amoureux de l'innovation comme je le suis, j'ai découvert au travers des premiers vélos la machine à explorer le temps.
Donc, oui, c'est vrai que cette course-là fait effectivement remonter le temps.
On vit les émotions des pionniers et ça, c'est absolument incomparable.
Magnifique, il vous offrait 15 secondes de plus à Gérard Rolls, qui a donc 45 secondes pour lui. Gérard, 45 secondes.
Pour moi, le vélo, 45 secondes, d'abord, Gérard. Le vélo, c'est l'avenir pour moi. Mm-hmm. Pour moi, le vélo, c'est la liberté. Pour moi, le vélo, c'est les balades qu'on fait, soit avec des copains, soit seul. Les grandes décisions que j'ai eu à prendre dans ma vie, je les ai prises à vélo, par exemple. La récompense d'une balade en vélo, pour moi, c'est de voir un chevreuil, c'est de voir un écureuil ou une chose comme ça. Et je voudrais tellement, tellement que dans toutes les grandes villes, en France en particulier, on copie ce qui s'est passé à Amsterdam ou ce qui se passe en Allemagne ou ce qui se passe à Strasbourg, qui est vraiment devenue une ville vélo extraordinaire avec La Rochelle, et que tout le monde, et à Paris en particulier, on a 12 millions de franciliens là. Ça serait tellement bien s'ils étaient tous avec leur bicyclette. Moi, j'ai le cœur en forme de deux roues.
Attends, bon, bravo Gérard, bravo, 45 secondes pile poil. Et bien, ce sera les mots de la fin. Merci à vous trois. Donc je rappelle que cette course anniversaire aura lieu le week-end du 11 novembre, en 3 jours. Gérard Rolls sera sur la piste, évidemment. Il y a 2 livres que je voudrais citer. Cycliste français de Pascal Sergent, c'est édition Sutton. Et votre livre, Gérard, Cent histoires de légende, c'est chez Grunt. Et là, c'est consacré au vélo cette fois. Et le foot arrive en juin. Merci à vous trois.
Tous au départ. À 7h, au sommet de l'avenue de la Grande Armée.
Très bien, merci. Début novembre à Paris. Merci à vous trois. Merci à Marco Mutel aux manettes ce soir et Florent Boël et Kinédé. Merci à Arnaud Jamin. La semaine prochaine, donc Jean Dury, historien du sport, mémoire vive du XXe siècle. On passera une heure avec lui, ça va être fantastique. Voilà, d'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.